Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, bon baiser de Russie. Le pays de Lev Yachine et Vladimir Poutine accueille sa première Coupe du Monde de football. Les Russes face à l'Arabie Saoudite en ouverture. À 17h, l'enthousiasme est de rigueur. Le pays est prêt. Quasiment que des dirigeants de l'orbite russe ce soir en tribune officielle. Et les Bleus sont-ils prêts? Les enjeux politiques, sportifs de cette Coupe du Monde, c'est avec notre équipe sur place. Béatrice Duguet, Alain Giresse, Claude Brouillot et Monsieur Jacques Vendroux. Une énigme criminelle de plus de 30 ans peut-être bientôt résolue. La petite martyre de l'autoroute A10, le corps d'une fillette retrouvée dans un fossé en 1987. Plus de 30 ans après, ses parents sont présentés à un juge. France-Italie, la rencontre Conte-Macron aura bien lieu demain. La brouille est en partie dissipée. En partie, les Italiens dans la rue, dans la presse, n'ont vraiment pas aimé les accusations de cynisme et irresponsabilité. Dans ce journal encore, journée mondiale du don du sang, ce sera la chronique santé de Daniel Messager. Deux nouvelles en économie, zéro surprise. La bonne nouvelle, encore une très grosse commande en vue pour les chantiers navals de Saint-Nazaire. La mauvaise, General Electric ne tiendra pas, ses promesses d'embauche en France. La météo, bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Une perturbation gagne l'ouest.
Oui, alors juste quelques pluies sur le nord-ouest, la région parisienne, le nord de la Seine, peut-être une ondée du sud-ouest aux Ardennes. 11 départements du nord-ouest et du sud-ouest restent en vigilance orange pour les crues, donc soyez prudents. Ailleurs, du soleil pour les températures 17 à 29 degrés. Et puis pour le premier match de la Coupe du Monde, 10 à 17h à Moscou, 17 degrés. Et un ciel souvent couvert.
Ah, c'est pas mal pour jouer au football, comme ça on n'aura pas trop chaud. Nous passerons lors de ce journal, avant de vous réentendre Elodie, à 13h30 par Salise du Béarn, l'une des villes victimes des inondations ces derniers jours. Et puis ensuite ce sera la suite du programme, 13h30 la marche de l'histoire autour de la pornographie médiévale, mais oui, 14h la tête au carré, rêverie et méditation cosmique. Vous êtes les bienvenus dans le journal de 13h.
France Inter.
Ah, ça fait saigner les oreilles, hein, c'est vrai. Ce que vous entendez là, c'est Live It Up, l'hymne officiel de la 21e Coupe du Monde de football qui commence dans moins de 4 heures. La compétition a déjà eu lieu en Afrique du Sud, au Japon, au Chili, au Brésil, aux États-Unis, dans beaucoup de pays européens. Elle n'avait jamais eu lieu en Russie. La 21e Coupe du Monde de football commence donc dans moins de 4 heures. 17 heures, le match d'ouverture, les Russes face à l'Arabie Saoudite, les deux plus gros pays producteurs de pétrole l'un contre l'autre. Le pays de Poutine accueille sa première Coupe du Monde. Parole de russe au micro de Béatrice Duguet. Écoutez ce supporter.
Russie, сейчас это есть какие-то моменты связанные там.
La Russie en ce moment a une image mitigée de pays fermé qui subit des sanctions.
Я думаю, что это лишний повод, ну как-то воочию посмотреть, что
Alors c'est l'occasion de voir directement que les gens simples ne considèrent pas le côté politique des visiteurs. Des Français, par exemple. Nous les prenons pour ceux qu'ils sont, des personnes.
Bonjour Claude Brouillot.
Bonjour.
Correspondant permanent de France Inter à Moscou. Le coup d'envoi sera donc donné dans ce stade Loujniki de Moscou, jadis stade Lénine, là où s'étaient tenus les JO de 1980, boycotté par une partie de l'Occident. Avant le coup d'envoi, il y aura un petit concert, la star pop Robbie Williams, la soprano russe Aïda Garifoulina. Claude, vous qui connaissez bien la Russie, est-ce que vous sentez l'enthousiasme monter? Ah, Claude Brouillot, est-ce que Claude Brouillot est en direct de Moscou avec nous? Est-ce que nous avons perdu la liaison? Eh bien, la réponse est que nous avons perdu la liaison. On me dit que oui, que non, que pas de liaison avec Moscou. Eh bien, nous retrouverons Claude Brouillot un peu plus tard dans ce journal pour parler de cette ouverture de la Coupe du Monde ainsi que des enjeux sportifs de cette Coupe du Monde. Ce sera à la fin de ce journal avec Jacques Vendroux et avec Alain Giresse. La suite de l'actualité à 13h04, c'est l'Italie et la France. Finalement, le Premier ministre italien Giuseppe Conte déjeunera bien demain à Paris avec Emmanuel Macron. C'est la fin apparente de l'épisode de coup de froid entre les deux pays à propos des migrants de l'Aquarius. Pas d'accueil en Italie. L'Élysée avait dénoncé le cynisme et l'irresponsabilité de Rome. L'Italie demandait des excuses qui ne sont arrivées qu'à moitié. Le président n'a tenu aucun propos visant à offenser l'Italie et le peuple italien, précise l'Élysée dans un communiqué. Mathilde Imberti à Rome, les mots se font plus doux, mais l'épisode a déclenché une démangeaison anti-française en Italie. Et voilà, c'est le journal de toutes les galères. On n'a pas Mathilde Imbert-y non plus, tout le monde est absent. Est-ce qu'on a le son de Marine Le Pen qui réagit à cet épisode de brouille diplomatique entre France et Italie? Oui, Marine Le Pen qui se revendique de sa proximité avec Matteo Salvini.
Les propos d'Emmanuel Macron sont gravement irresponsables. Il va nous fâcher avec combien de pays avec ce type de comportement? C'est une vraie question quand même. À un moment donné, ça fait un an qu'il est là et manifestement, les relations se dégradent avec toute une série de pays. Pourquoi Emmanuel Macron s'est cru autorisé à traiter les Italiens de cyniques et d'irresponsables? Quand lui-même, d'ailleurs, se trouve confronté à l'accusation inverse, en disant mais qui est le cynique? Qui est l'irresponsable? J'ai l'occasion de rencontrer régulièrement Matteo Salvini puisque nous participons du même groupe au Parlement européen. Bien sûr, nous en discuterons. Pour l'instant, je les vois à l'œuvre et ce qu'ils font, je trouve ça admirable. Ils ne font pour l'instant aucun faux pas.
Marine Le Pen revendique sa proximité avec Matteo Salvini. Les eurosceptiques sont de plus en plus nombreux, puissants, organisés en Europe. Hier, par exemple, geste de défiance à l'égard d'Angela Merkel. Son ministre de l'Intérieur, nettement plus à droite qu'elle en Allemagne, a annoncé la constitution avec ses collègues ministres autrichiens et italiens, toujours Matteo Salvini, d'un axe des volontaires contre l'immigration clandestine en Europe. Le fossé se creuse entre les partenaires européens. Écoutons Yves Pasquo, il est chercheur à l'Université de Nantes, il est spécialiste des politiques migratoires nationales et européennes.
On a un axe qui est en train de se structurer, mais qui finalement sera beaucoup plus large que l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, parce que vont très certainement se joindre à cet axe-là Pologne, Hongrie, Slovaquie et République tchèque, auxquels on pourra ajouter la Belgique et aussi le Danemark. On peut facilement imaginer demain qu'il y aura des coalitions d'États qui pensent la même chose, qui vont se structurer et qui vont avoir du poids dans la négociation. Et ce qu'on peut craindre en réalité, c'est que cette coalition d'États deviennent suffisamment importantes pour réduire totalement au silence les États qui, eux, ont des visions qui sont moins restrictives sur les questions migratoires. Au Conseil européen, les seules questions sur lesquelles on pourra continuer à discuter ne sont que les questions de sécurisation de la frontière extérieure de l'espace Schengen. Le reste ne sera plus l'objet de débat parce qu'on n'arrivera pas à avoir des positions communes sur ces questions.
Et comme premier, nous retrouvons Claude Brouillot en direct de Moscou. Vous êtes là, Claude ?
Bonjour Bruno.
Bonjour Claude. Alors, ouverture de la Coupe du Monde à 17h tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un enthousiasme autour de cette compétition en Russie, Claude ?
Écoutez, je dirais que ça commence doucement, un petit peu par devoir presque patriotique. La fierté nationale est convoquée quand même à travers ce premier match de la Russie dans sa Coupe du Monde, mais évidemment sans de la prudence dans l'engagement, car tout le monde ici connaît bien sûr les carences de cette sélection russe.
Sur une échelle de 1 à 10, disons, Claude Brouillot, est-ce que la Russie est prête ? Je parle de l'organisation.
7 sur 10, avec aujourd'hui quand même, on peut le dire globalement, oui, une préparation qui est optimisée. Le curseur sur les questions de sécurité a été placé assez haut, évidemment. La présence policière paraît très dissuasive à Moscou, mais aussi dans de petites villes qui n'ont pas forcément l'habitude de voir débarquer d'un seul coup des milliers de supporters étrangers. Il a fallu s'organiser. Un exemple, dans la petite ville de Sarang, c'est 300 000 habitants à 600 km au sud-sud-est de Moscou. 4 matchs seront organisés là-bas. Et il y a, par exemple, plus de 1300 jeunes volontaires en ville et près du stade pour accueillir les supporters étrangers.
Bon, 7 sur 10, c'est quand même pas mal. Alors les écueils, on les connaît Claude, hein, les hooligans, le racisme dans les stades russes et évidemment les nombreuses limites aux libertés fondamentales, la liberté d'expression en particulier en Russie. Il y a un cas emblématique en ce moment, Claude.
Oui, c'est le cas Oleg Sentsov. C'est clairement, durant ce mondial d'ailleurs, l'épine dans le pied des autorités russes. Le cinéaste ukrainien entame aujourd'hui son 31e jour de grève de la faim. Lui qui est condamné pour terrorisme à 20 ans de prison en Sibérie et qui clame son innocence, devient du même coup le point de fixation des questions humanitaires qui se posent en Russie aujourd'hui, au moment où le Kremlin ne voulait présenter que les aspects positifs, évidemment, du pays, le tourisme, les qualités d'accueil, d'organisation. La question du sort donc réservé à Oleg Sentsov interpelle, surtout quand on laisse entendre, par exemple, que pour éviter une issue fatale pendant le mondial, eh bien, les autorités russes pourraient nourrir de force le prisonnier en grève de la faim.
Merci Claude Brouillot en direct de Moscou. Vladimir Poutine voudrait faire de ce mondial une vitrine diplomatique également, mais dans la tribune officielle tout à l'heure, il y aura assez peu de dirigeants internationaux. On verra les chefs d'État kirghizes, azerbaïdjanais, rwandais, libanais, arméniens, et puis le prince héritier d'Arabie, Mohamed Ben Salman, puisque son pays est du match d'ouverture. On retourne en Russie, si les liaisons satellites le veulent bien, à la fin de ce journal, les enjeux sportifs de cette 21e Coupe du Monde, avec Jacques Vendroux et Alain Giresse.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Cold Case, anciennes énigmes criminelles finalement résolues. La réalité rattrape parfois les séries télévisées. Un mystère de plus de 30 ans va peut-être être résolu. Celui de la petite martyre de l'autoroute A10. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
Août 1987, le corps mutilé d'une petite fille est retrouvé dans un fossé le long de l'autoroute près de Blois. Traces de brûlures et de morsures. Elle mesure moins d'un mètre. Elle a les cheveux bruns bouclés, les yeux marron foncé. Identité inconnue. Des dizaines de milliers d'écoles sont visitées à l'époque ou contactées. Des milliers de médecins, d'assistantes maternelles sont interrogées. La photo de la petite fille est diffusée dans plus de 30 pays. Et rien à l'époque. Mais aujourd'hui, Corinne, les enquêteurs ont retrouvé les parents qui sont au tribunal pour être présentés à un juge.
Oui, ils ont aujourd'hui plus de 60 ans. La mère a été interpellée mardi dans l'Aisne, le père dans les Hauts-de-Seine. Ils sont bien les parents de la petite Inas, 4 ans. L'ADN l'a confirmé. On connaît donc aujourd'hui le prénom et l'âge de cette petite fille retrouvée voici 31 ans au bord de l'autoroute et que personne n'avait jamais réclamé. C'était la route des vacances. En ce mois d'août 87, la famille se rendait au Maroc. Corinne Herman est avocate, spécialiste des affaires non élucidées. Elle connaît bien l'histoire de cette petite fille.
Cet enfant est un enfant martyr. Elle avait d'anciennes traces de brûlures, de coups et c'est une petite fille qui a été martyrisée, non pas au moment où on l'a tuée, mais depuis des mois. Sur sa tombe, il y avait un écrit qui était « Ici repose un ange ». Voilà, aujourd'hui elle a un prénom, elle a une identité, c'est évidemment très touchant.
C'est donc, vous l'avez dit Bruno, la fin d'un mystère qui a bouleversé les enquêteurs et les juges d'instruction qui se sont succédés sur cette affaire sans jamais la refermer. En garde à vue, selon nos informations, le père a reconnu des maltraitances. La mère est pour l'instant incapable de parler pour justifier l'absence de sa fille pendant toutes ces années. Elle aurait dit l'avoir laissée au Maroc. Inas a 2 grandes sœurs et 4 frères nés après elle. Et c'est l'ADN d'un de ses frères, interpellé en 2016 pour une affaire de violence, qui a permis de résoudre l'énigme.
L'Association française des malades de la thyroïde a-t-elle trouvé la cause des effets secondaires que disent ressentir beaucoup de malades avec la nouvelle formule du Lévothyrox? Cette association qui milite contre la nouvelle formule dit avoir mené une analyse. La molécule active serait sous-dosée par rapport à l'ancien Lévothyrox et il y aurait une autre molécule qui ne figure pas dans la liste des composants et qui a été retirée de la vente aux États-Unis à cause d'effets secondaires. Est-ce une bonne piste? Les résultats de l'étude sont transmis à la juge d'instruction de Marseille en charge du dossier. Ce n'est pas vraiment une surprise, hélas. C'est une confirmation. Dans les grandes négociations au carrefour des affaires et de la politique, les promesses, bien souvent, n'engagent que ceux qui les reçoivent. Il y a 4 ans, General Electric, l'américain, reprenait la branche énergie d'Alstom avec la promesse de créer 1000 emplois en France d'ici à la fin de cette année. Bonjour Hélène Philly.
Bonjour.
Tiens, la promesse ne sera pas tenue.
Le patron de General Electric l'a officiellement confirmé, oui, au ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin. C'est vrai, toutefois, que ça fait longtemps que les syndicats redoutaient, eux qui en 4 ans ont déjà connu 2 vagues de suppression de postes. La première, moins de 3 mois après le rachat, plusieurs centaines de postes concernés en France. La direction maintenait encore l'objectif du millier d'emplois créés à ce moment-là. Et puis, deuxième vague de suppression de postes, 2017. La France, cette fois, est épargnée, mais le plan concerne tout de même 12 000 postes dans le monde. Comment embaucher dans ces conditions? Arnaud Séjourné de la CFE-CGC n'a jamais cru à la belle promesse.
Disons que c'était un engagement trompe-l'œil depuis le départ. Et de toute manière, à partir du moment où le marché sur la partie power s'est retourné avec de fortes suppressions sur les turbines à gaz, et à partir du moment où ils ont mis en parallèle un plan de suppression de postes à Grenoble sur la partie hydro, donc les énergies renouvelables, 240 postes en moins, c'était évident qu'ils ne pourraient pas les compenser de manière importante. Quoi.
Les syndicats le disent aussi, les pénalités imposées par l'État en cas de non-respect de l'accord n'étaient pas assez dissuasives. 50 000 euros par poste non créé. Pour l'instant, Bercy se contente d'ailleurs de demander des perspectives claires pour l'avenir et souhaite des propositions de General Electric à l'automne prochain. Les syndicats attendent aussi, avec une certaine inquiétude, les annonces de leur patron sur la stratégie du groupe pour les 3 ans à venir. Ce sera le 25 juin prochain aux États-Unis.
Merci Hélène Philly. Une très grosse commande de plus en vue pour les chantiers navals de Saint-Nazaire. 3 paquebots à livrer entre 2022 et 2024. Montant estimé 3 milliards d'euros. Le client serait l'armateur italien MSC. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire doit confirmer cela dans les heures à venir. La SNCF, la réforme du rail a été adoptée au Sénat aujourd'hui. Il reste encore un vote pour une adoption tout à fait définitive. Et puis chez Air France, après un printemps de grève, il y avait un comité central d'entreprise ce matin au siège à Roissy, l'intersyndical face à la direction provisoire. Une menace de grève est dans l'air pour le 23 juin. Nous en venons à notre rendez-vous santé du jeudi. Bonjour. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Ce jeudi est la journée mondiale des donneurs de sang. Le but lancé par l'Organisation mondiale de la santé, c'est évidemment de sensibiliser au don du sang, Daniel.
Mais on parle des donneurs, donc il faut les mettre à l'honneur. Et qui peut mieux les honorer que les personnes qui ont bénéficié de leur sang? Emmanuel est papa d'un petit garçon né avec une maladie nécessitant un gros apport de sang.
Mon fils était touché par une maladie génétique qui fait que sa moelle osseuse fonctionnait mal. Donc elle produisait mal ses globules blancs, ses globules rouges et ses plaquettes. Il a été transfusé à peu près une quarantaine de fois, pas mal de fois donc en plaquettes et toujours en urgence, puisque vu qu'il n'avait pas de plaquettes, il risquait de faire des hémorragies spontanées, donc des hémorragies cérébrales, pulmonaires ou cardiaques. Et donc à chaque transfusion, on lui sauvait la vie. Et quand on voit tous les donneurs de sang, je peux vous dire que ça fait énormément chaud au cœur, puisque la poche qui se remplit du donneur de sang, nous on l'a vu de l'autre côté, à l'hôpital, quand elle se vide, pour aider mon fils à vivre.
Voilà, une vie sauvée. Alors Daniel, quand on pense aux dons du sang, on croit qu'il s'agit surtout des accidents ou des personnes en urgence vitale qui en ont besoin. Ça ne représente que 10%.
Oui, effectivement, et les autres sont des malades. Le docteur Sylvie Gros est directrice médicale de l'EFS, l'établissement français du sang.
Les patients qui sont transfusés le plus fréquemment avec les produits sanguins, ce sont les patients atteints de maladies hématologiques ou les cancers. La chimiothérapie va tuer les cellules cancéreuses, mais ça va aussi atteindre tous les précurseurs de la moelle osseuse qui fabriquent les cellules sanguines. Donc les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs.
Et ça va permettre à ces malades de passer des étapes en fait.
Oui, de supporter des traitements sans avoir tous les signes et inconvénients hémorragique d'un déficit en plaquettes. Parce qu'un déficit en plaquettes peut faire saigner.
Et c'est pour ça qu'il faut renouveler en permanence ces dons du sang.
Exactement. Parce que les concentrés de plaquettes, ça se conserve malheureusement pas très longtemps. 5 à 7 jours à l'heure actuelle. Il faut en permanence avoir des donneurs pour assurer cette production quotidienne.
Et les Français sont des bons donneurs ?
Sont des donneurs moyens, je dirais. Pourraient faire mieux. Il n'y a que 3% des personnes en âge de donner qui donnent en France, ce qui n'est pas beaucoup par rapport aux autres pays, en particulier du nord de l'Europe, qui sont un petit peu plus actifs en matière de don du sang.
Voilà, précision Daniel Messager, en France, on dispose d'un stock de sang de 12 jours, c'est le seuil de sécurité.
Oui, et avant l'été, ça va venir bientôt, l'EFS aimerait bien monter à 14 jours, car évidemment les donneurs aussi partent en vacances et donnent moins en juillet et en août. Est-ce que vous avez compris le message ?
Le message est bien passé, merci Daniel Messager. Tous les jeudis, notamment dans ce journal de 13h pour le rendez-vous santé. Un mot de l'actualité internationale encore et la guerre au Yémen et les bilans des combats de ces dernières heures dans la ville de Hodeïda. 39 insurgés et soldats tués dans des combats aux portes de la ville. Et comme promis dans ce journal un peu chaotique, retour en Russie pour examiner les enjeux sportifs de la Coupe du Monde avec une doublette que la terre entière nous envie. Jacques Vendroux, Alain Girès, consultant de Radio France tout au long de ce mondial. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, les enjeux avec vous, Alain et Jacques. Quels sont les favoris de cette Coupe du Monde? Je vous demande un petit exercice pour justifier ce que vous dites. Un mot-clé avec chaque favori. Qui commence?
Moi, je vais me lancer.
Allez-y, Alain.
Moi, je vais citer avec Jacques, on a c'est tout ça en échangé. Alors, Brésil.
Oui.
Le Brésil, évidemment, qui possède quelqu'un à l'intérieur de cette équipe-là qui est capable de faire à lui seul la différence. L'Allemagne, sur le collectif, c'est l'habitude de la grande compétition. La France, pour le cœur, pour le cœur, avant tout. Et le Portugal également, parce qu'à l'intérieur, il y a un joueur aussi qui sont décisifs dans ce genre de compétition.
Brésil, mot-clé Neymar, Portugal, mot-clé Ronaldo, Allemagne, le collectif, la France, c'est le cœur. Et vous, Jacques?
Espagne, avec son nouvel entraîneur, Hierro. Et Ramos et Piqué, la meilleure défense du monde.
Oui.
L'Angleterre, l'étonnante surprise, qualification exemplaire, invaincu en 10 matchs. Argentine, tout dépend de Messi, s'il est de bonne humeur, avec Di Maria et Aguilero. Oui. Et ils ont un grand gardien qui s'appelle Cabarello. Et la Belgique, 43 buts marqués en éliminatoire, c'est le record des joueurs exceptionnels, Hazard, De Bruyne, et Meunier. Et si les Belges s'entendent bien entre eux, ce qui peut arriver, ça pourrait faire très mal.
Parlons plus en détail de l'équipe de France, Alain Girès. Parmi les favoris, dites-vous, qu'est-ce qui serait une compétition réussie? Qu'est-ce qui serait une compétition ratée?
Alors, je vais commencer par la ratée. Mm-hmm. La ratée, ça serait pas de sortir du groupe.
D'accord.
Ça, c'est clair, net et précis. Là, il y aurait pas beaucoup de circonstances atténuantes. Après, le problème, c'est que tour plus suivant, on peut tomber sur l'Argentine. L'Argentine, nous avions un phénomène, c'est Messi. Et là, on peut être fortement contrarié par la performance de ce joueur.
Oui, donc ça peut s'arrêter vite.
ça peut s'avérer très vite, et ça sera pas forcément quelque chose qui, une contre-performance, parce que confronté au talent exceptionnel, quelquefois, on ne peut pas, malheureusement, le mettre hors de position.
Ouais. Mais
après, on va dire qu'un quart final, évidemment, et en tout cas réussi, ça serait être dans les demi-finales.
Et une victoire est réellement possible selon vous, Alain?
Alors c'est possible, on a un potentiel, il dépend pas que nous, ce potentiel il faut que on puisse l'exprimer parce que les équipes en face nous donneront la possibilité, c'est-à-dire nous laissent un petit peu d'espace, ouais. Nous laissent un petit peu des possibilités que nos qualités s'expriment. À ce moment-là, on peut faire très mal et pourquoi pas aller jusqu'au bout.
Et toute petite question bonus, vous qui connaissez ces grandes compétitions par cœur avec les Bleus dans les années 80, puis à la tête de plein de sélections, qu'est-ce qui se joue là au tout début d'une compétition, les heures avant les premiers matchs, Alain Giresse?
Eh bien, c'est justement l'attente de ce premier match. On peut se préparer, on peut penser, on peut en parler. Rien ne remplace l'entrée en matière. C'est-à-dire que pour être véritablement lancé dans la compétition, il faut que ce premier match débute pour tout le monde. Parce que c'est à part. C'est pas la Ligue des Champions, c'est pas les championnats nationaux, c'est la Coupe du Monde. Et pour en prendre bien la mesure, il faut vraiment bien démarrer et se lancer, se mettre sur les bons rails. Donc, il est important de toujours bien le préparer, évidemment, mais ne pas le rater.
Bien rentrer dans la compétition. Jacques Vendroux, les joueurs à suivre, et ne me dites pas Neymar, Ronaldo ou les Bleus, d'autres joueurs qu'il faudra regarder de près pendant ce mois à venir, Jacques.
Alors, j'ai pensé à Navas, le gardien de but du Real Madrid, oui, et du Costa Rica.
Oui.
J'ai pensé à Albert Gudmundsson, l'avant-centre de l'Islande. J'ai pensé à Tim Cahill, l'avant-centre de l'Australie, 105 sélections. À Belanda, le milieu de terrain du Maroc, oui, ancien joueur de Montpellier.
Belanda,
et évidemment, les joueurs de l'Uruguay, Cavani et Suarez.
Allez messieurs, pour finir, je vous laisse une carte blanche chacun, quelque chose voilà dont vous vouliez parler au moment de l'ouverture du mondial.
Alors je vais commencer exceptionnellement, car hier avec Alain Giresse, eh bien nous avons été nous recueillir sur la tombe du meilleur gardien de but du monde de tous les temps, Lev Yashin, très présent ici en Russie. C'est lui qui est sur toutes les affiches officielles de cette 21e Coupe du Monde de football.
Le grand gardien de but, l'un des plus grands de l'histoire, dit-on. Alain Giresse, votre carte blanche.
Écoutez, moi, j'apprécie d'être à Moscou pour cette Coupe du Monde et surtout d'apprécier l'accueil qui est fait maintenant, fair play, convivial, amical, voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai connu aussi Moscou du temps de l'Empire soviétique, ouais, et malheureusement, on n'était pas soumis à ce régime de faveur quand on était sportif. Et oui, quand on était ouais, sportif, qu'on venait jouer ici, c'était très compliqué. Et là, dans le même cadre de vie, eh bien, les conditions sont complètement différentes et plus adaptées et plus conforme à ce qu'on doit accorder à toutes les équipes qui viennent ici.
Même s'il y a des ombres, bien souvent, sur les différentes libertés en Russie. Allez Jacques, puisque vous parliez de Lev Yashin, ce reportage va vous faire plaisir pour lui rendre hommage. Béatrice Duguay, qui est de votre équipe, là, de l'équipe Radio France à Moscou. Béatrice Duguay est allée rencontrer le petit-fils de Lev Yashin.
Il faut prendre le métro jusqu'à la station Tushinskaya, près du stade du Spartak Moscou, pour retrouver Vassili Frolov. Il donne la leçon à deux apprentis gardiens de but d'une dizaine d'années. Accueil en français, s'il vous plaît.
Bonjour, messieurs, madame.
1m88, longiligne, Vassili Frolov fait comme son grand-père, Gaulle depuis qu'il a 9 ans, courte carrière professionnelle aujourd'hui terminée, pour monter son école de gardien. De son grand-père, mort quand il avait 4 ans, Vassili ne garde qu'un souvenir de môme auprès de son papy, alité.
Je ferme les yeux et je le vois comme au cinéma. J'entre dans la chambre de Lev Ivanovitch. Le lit est à hauteur de mon front, pas parce qu'il est haut, mais parce que je suis petit.
Vassili raconte alors que Lev Yashin, amputé d'une jambe, l'a fait grimper dans son lit et que le petit-fils l'a rejoint pour lui faire un bisou. Forcément, de le voir aujourd'hui sur l'affiche de la Coupe du Monde, ça le touche.
C'est agréable que ton grand-père soit la plus grande icône de football de ton pays. Et c'est évident que c'est lui qui doit être sur cette affiche, parce qu'il est le symbole du football russe dans le monde entier. C'est le footballeur russe le plus respecté dans le monde entier.
Vassili ajoute que depuis 48 ans, aucun footballeur russe ne l'a jamais égalé. Et ça n'est pas encore pour cette année.
Moscou, Béatrice Duguerre, France Inter.
Voilà, 800 000 personnes sont attendues en Russie dans le mois à venir. La finale, ce sera le 15 juillet. Le premier match Russie-Arabie, c'est donc à 17h tout à l'heure. Le premier choc, c'est demain, Espagne-Portugal. La France entre en compétition samedi à midi face à l'Australie. Avec ou sans Djibril Sidibé, l'arrière droit blessé au genou. Est-ce qu'il va être forfait? Il est en bonne santé, dit le président de la Fédération française, Noël Le Graët. Il devrait être présent, mais on a jusqu'à demain midi pour le remplacer en cas de pépin. Encore une incertitude donc sur la présence de Sidi Bé tout au long de ce mondial. Nous visitons à présent la plus grande foire d'art contemporain du monde. Nous allons à Art Basel qui ouvre ses portes au public aujourd'hui à Bâle, en Suisse, et jusqu'à dimanche. Et on y trouve ce qui se fait de mieux sur le marché mondial de l'art. Les raisons du succès, Coralie Donat.
L'ambiance est très animée dans les allées de la foire où se pressent les collectionneurs et les professionnels. La réputation d'Art Basel repose sur presque 50 ans d'existence et une exigence soutenue. Marc Spiegler, directeur de Art Basel.
Toutes les galeries sont forcées de donner leur mieux, qu'il se soit des jeunes galeries qui emmènent les jeunes artistes, que ce soit des galeries d'art historique qui cherchent partout chez les collectionneurs pour trouver des chefs-d'œuvre des années 50, 60, etc.
La petite ville de Bâle regorge de galeries et de musées reconnus à l'international. Un environnement idéal pour un événement qui indique chaque année les tendances du marché mondial de l'art. Karim Haus, marchand d'art, vient de Paris.
Je viens pour trouver des œuvres. Je viens aussi aider parfois des collectionneurs à se décider, rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, c'est un espèce de rendez-vous annuel qui est très important pour toutes les personnes qui travaillent dans le monde de l'art.
Les galeries réapprovisionnent sans cesse leurs stands car les collectionneurs achètent dès les premiers jours. Karine vient de Genève, elle est fidèle depuis une quinzaine d'années.
Cette année, on a eu un coup de cœur pour un artiste japonais des années 60. On a acheté une petite gouache. C'est notre foire fétiche parce que c'est une des majeures, c'est vraiment une des trois grandes foires mondiales.
Art Basel, c'est aussi une foire off et un parcours artistique gratuit dans le centre-ville.
Voilà pour ce reportage de Coralie Donat. Avant la météo, un détour par la dernière ville sur la longue liste des communes victimes d'inondations ces dernières semaines. Salisse de Béarn, les images d'hier étaient impressionnantes. Quelle est la situation en cette mi-journée, Maud Calves?
Eh bien, sur place, c'est le chaos. Il y a par exemple cette vitrine d'une banque Place de la Trompe qui n'existe plus. Des pans de murs de l'agence qui ont été arrachés. Des bénévoles de la Croix-Rouge un petit peu partout, balais à la main, se font interpeller par les habitants qui ont besoin d'aide devant un café. Par exemple, des tables retournées, des morceaux de chaises, des meubles qui dégoulinent. Les appareils électroménagers sont stockés devant les vitrines sans grand espoir de les récupérer. Les habitantes, par contre, tentent de récupérer leurs factures, les documents, tout ce qui peut être sauvé pour justifier les dégâts au prix de l'assurance. Tout le monde s'active dans les rues pleines de boue. Il y a une trentaine de personnes qui sont venues de tout le département pour aider et 70 autres ont contacté l'adjoint au maire pour proposer une place chez eux.
Alors, quelle est la situation du côté de la météo? Nous voyons cela.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Élodie Calac.
Ça sent nuage par l'ouest, on attend un peu de pluie entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, le bassin parisien, les Hauts-de-France. Peut-être une ondée du sud-ouest aux Ardennes sous un ciel plus lumineux. Attention, on surveille toujours les cours d'eau, les crues se propagent sur le nord-ouest, le sud-ouest où une dizaine de départements restent en vigilance orange. Pour avoir du soleil, direction le nord-est, l'Auvergne, Rhône-Alpes, le Languedoc-Roussillon et PACA. On a toujours un risque d'averses orageuses des Alpes du Sud à la Corse, mais moins qu'hier. Et puis on n'oublie pas Mistral et Tramontane qui soufflent jusqu'à 80 km à l'heure. On attend 17 à 21 degrés sur le nord-ouest, le nord et l'Île-de-France, 20 à 25 degrés ailleurs et jusqu'à 25 à 29 pour le sud-est.